Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Paul Ouzi Meyerson, qui a le plaisir de vous présenter une nouvelle émission de notre magazine Chronique pour la paix. Chers auditeurs, il y a 25 ans, les accords dits d'Oslo étaient signés par Yitzhak Rabin, premier ministre de l'État d'Israël, et Yasser Arafat, chef de l'Organisation de libération de la Palestine. Cette entente faisait naître alors un immense espoir de paix et de prospérité pour tout le Moyen-Orient. En vérité, il s'agissait d'un cadre intérimaire qui définissait les étapes vers la création d'un État palestinien à côté d'Israël en paix et en sécurité. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Entre-temps, Yitzhak Rabin a été assassiné par un extrémiste juif. La seconde intifada palestinienne a tué plus de 1000 Israéliens dans des actes de terreur d'une violence inouïe. Pour mettre fin à ce bain de sang, Tsahal, dirigé par Ariel Sharon, a chassé de Ramallah Yasser Arafat, qui s'en est allé mourir à Paris. Dès lors, les implantations juives se sont multipliées en Cisjordanie, et aujourd'hui, il y a deux Palestines, dont une à Gaza, où le Hamas mène le djihad contre Israël et l'autorité palestinienne. Deux guerres s'en sont suivies. Pourtant, le cadre d'Oslo se perpétue. La Cisjordanie continue de fonctionner selon ses paramètres. Les rapports entre Israël et l'autorité palestinienne sont dictés en grande partie par ces accords, notamment pour la coopération sécuritaire. Alors, Oslo est-il vivant, moribond ou mort ? La question mérite bien d'être posée, et cela d'autant que le président des États-Unis, Donald Trump, semble vouloir bousculer la situation en adoptant une autre démarche, laquelle on ne sait pas. Pour faire le point sur ces questions stratégiques, nous avons demandé à Denis Charbit de répondre à nos interrogations. Denis Charbit est maître de conférences en sciences politiques à l'Université ouverte de Tel Aviv. Politologue, il a publié de nombreux ouvrages, dont le dernier en date, Israël et ses paradoxes, est publié aux éditions Le Cavalier Bleu. Denis Charbit, êtes-vous à l'antenne ? Vous m'entendez ?
Oui, j'entends parfaitement.
Bonjour Denis Charbit. Une première section, Denis, sur les accords d'Oslo, dont nous allons parler aujourd'hui. Est-ce que les accords d'Oslo, c'est un fantôme qui hante le Moyen-Orient ? Pensez-vous qu'il fasse passer à autre chose, comme Donald Trump le propose ?
Écoutez, je ne peux pas prédire ce que l'avenir nous réserve. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le bilan de ce qu'on appelle les accords d'Oslo, de la déclaration de principe d'Oslo, dont vous avez bien souligné qu'elle était essentiellement un accord intérimaire, la mise en place d'une autonomie d'abord, puis une négociation sur tous les sujets, tous les litiges, tous les contentieux entre Israéliens et Palestiniens ensuite, eh bien c'est vrai que d'une certaine manière, si on fait le bilan 25 ans après, eh bien on ne peut pas ne pas constater que voilà, c'est un bilan tout à fait mitigé. Mitigé pourquoi ? Bah parce que, un peu comme vous l'avez dit tout à l'heure, 25 ans après, on a le Hamas à Gaza. En Israël, on a le gouvernement le plus nationaliste qu'on ait jamais eu depuis la création de l'État d'Israël. En 1993, on avait environ une centaine de milliers de personnes vivant dans les implantations. Aujourd'hui, on pense que ça se situe autour de 400 000, voire 1,5 million. Des centaines d'avant-postes ont été créés. Et puis, je dirais aussi que la démocratie libérale israélienne se trouve aujourd'hui fragilisée. Donc, voilà, c'est clair que si on a soutenu dans les années 90 ces accords d'Oslo, ceux qui l'ont soutenu comme moi et comme vous et comme beaucoup d'autres, ne peuvent pas ne pas constater que 25 ans après, on en est très loin. Voilà. Alors, en même temps, on ne peut pas tout mettre sur le passif pour deux raisons. Et d'abord, j'insiste beaucoup là-dessus. L'échec de ce qu'on appelle donc les accords d'Oslo, c'est pas l'échec que l'on pouvait redouter. C'est-à-dire, on imagine que les accords d'Oslo ont abouti à la création d'un État palestinien, et voilà que cet État palestinien, loin d'apporter à Israël la sécurité qu'on était censé en attendre, eh bien devient un fer de lance, un pont pour une attaque irrédentiste vers Israël. Ça, on aurait eu cette situation-là, qu'on n'a pas eu effectivement, puisqu'il n'y a pas eu d'État palestinien, on aurait pu dire, eh bien, tout le scénario d'Oslo s'effondre. On a pensé qu'en créant un État palestinien, on aurait la paix et la sécurité, et voilà qu'on a la guerre. Ça, c'est un échec dont on ne peut pas dire qu'il est un échec, puisque ça n'a pas eu lieu. On n'a pas tester ce que feraient et comment agiraient les Palestiniens s'ils disposaient d'un État. Et donc en ce sens, c'est pour ça que la solution des deux États reste toujours actuelle, c'est pour ça qu'elle n'est pas abandonnée par la gauche israélienne, parce que finalement, on ne l'a jamais mise en pratique. Donc on ne peut pas dire, si on crée un État palestinien, ça aboutit à l'échec. On n'en sait rien, ça n'a pas eu lieu. En revanche, ce qui s'est passé, et c'est ça qui fait l'échec, et là du coup, le gouvernement Rabin ou Peres ou Barak n'emporte pas toute la responsabilité, c'est vrai que je dirais que ce processus-là a avorté. J'ai employé il y a quelque temps l'image ou la métaphore d'une interruption volontaire de grossesse. Certains ne voulaient pas de ce bébé-là, certains ne voulaient pas de cette création d'un État palestinien et ont tout fait pour que ça n'aboutisse pas.
C'est à la fois le Hamas
qui a essayé de torpiller l'accord et le cas du gouvernement israélien de son côté.
Vous pensez du gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou ou vous pensez plus largement de la partie la plus extrémiste, la plus à droite, la plus nationaliste du gouvernement de Netanyahou?
Alors c'est vrai qu'en 1996, Netanyahou a dit qu'il acceptait les accords d'Oslo, il l'a répété en 2009, mais on voit très bien que pour lui ça reste un cadre, mais c'est un cadre qui doit rester figé. C'est-à-dire que là où pour tous les partenaires, il était évident qu'à partir de l'autonomie palestinienne, eh bien il faudrait déboucher sur un État avec des conditions démilitarisées, en négociant les frontières, les réfugiés, tous les problèmes en suspens, c'est clair que pour Netanyahou, la situation actuelle, finalement, est la meilleure. C'est un statu quo. On ne s'occupe pas des poubelles, de l'éducation, etc., dans les zones urbaines de la Cisjordanie. Donc Ramallah, Naplouse, Qalqilia, et Toulkarem et Jenin. Mais en revanche, Jéricho, mais en revanche, on garde le contrôle de la sécurité et la possibilité surtout de multiplier les implantations dans ce qu'on a appelé les zones B et C. Et ça, je pense que très clairement, c'est une manière d'accepter Oslo, mais à une condition, c'est de ne pas lui permettre d'aller au-delà de ce qui était prévu, c'est-à-dire de ne pas négocier le statut définitif de tous les problèmes en suspens.
Denis Charbit, vous observez depuis très longtemps la scène politique et sociologique israélienne et palestinienne. Quel est le sentiment des Israéliens et des Palestiniens vis-à-vis des accords d'Oslo? Ils veulent s'en débarrasser, ils veulent les utiliser comme soutien à une nouvelle négociation. Quel est leur sentiment aujourd'hui? Quelle est leur impression?
Je dirais que dans la mesure... Alors, si on considère, hein, ce qui n'est pas évident, les accords d'Oslo, dans la déclaration de principe, il y a nulle part écrit qu'il y aura un État palestinien. C'est ce que disaient d'ailleurs à l'époque les Palestiniens qui s'y opposaient. On monte dans un taxi et on ne sait pas où on va aboutir. Mais en gros, on devine bien que ceux qui ont soutenu les accords d'Oslo, c'était donc pour cet accord intérimaire, lequel devait aboutir ensuite à un État souverain. Alors, quel est le sentiment aujourd'hui des Israéliens et des Palestiniens? Je dirais que la faiblesse aujourd'hui de cette solution à deux États, la faiblesse intrinsèque, c'est tout simplement le temps qui est passé. Voilà, on est 25 ans après, et quelles que soient les responsabilités de la gauche, de la droite, Netanyahou, Barak, Arafat, Mahmoud Abbas, qu'importe, sans rentrer dans le détail des responsabilités, le fait que 25 ans après, on n'en est toujours pas avec un État palestinien à côté d'Israël, c'est ça qui a miné, d'une certaine manière, la confiance des Palestiniens et des Israéliens vis-à-vis de ce projet, de cette solution de deux États. Alors, il y en a bien sûr qui s'y opposent parce qu'ils redoutent effectivement que, comme je le disais tout à l'heure, qu'à partir d'un État palestinien, on attaque Israël. Mais après tout ça, on ne peut pas le savoir ou le deviner. Mais je dirais que la faiblesse, c'est que ça fait 25 ans qu'on en parle et 25 ans qu'on n'y est pas arrivé. Bon. Et du coup, vous avez chez les Palestiniens comme chez les Israéliens de nouvelles solutions, ou qui prétendent l'être, qui sont en train de se dégager, de se profiler. Alors, pour l'extrême gauche, c'est l'État binational, c'est-à-dire il ne faut pas créer deux États, parce que ça ne réglera pas le
problème.
C'est une
vieille lune.
Comment ?
C'est une vieille lune.
C'est une vieille lune, oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelait à l'époque la Palestine démocratique et laïque, qu'on n'appelle plus comme ça. Et on est d'autant mal placé de l'appeler laïque qu'il y a des forces religieuses des deux côtés et qui ne sont pas négligeables. Mais en tout cas, c'est l'idée que, en tenant compte, si je puis dire, de l'exiguïté du territoire, finalement, c'est parce que le territoire est petit que, eh ben, il faut se résoudre à un seul État, mais qui serait fondé sur le principe de l'égalité. Alors, sur le papier, c'est remarquable, c'est magnifique, c'est très joli, si ce n'est qu'il suffit d'avoir un regard sur la condition humaine en général et sur les expériences de ce type binational pour se dire que comment des ennemis jurés, subitement, par la grâce de je ne sais quel charme, deviennent des alliés qui coopèrent dans tous les domaines dans une égalité parfaite. Je n'exclus pas ce type de solution, mais ça ne peut jamais être imposé du jour au lendemain. Ça
Denis
peut être quelque
Charbit,
chose de progressif auquel deux États parviendraient, mais pas comme quelque chose qu'on imposerait. Et à droite, du côté de la droite israélienne, alors on n'est pas du tout pour un État binational au sens où on partagerait à égalité le pouvoir, la souveraineté et l'autorité, le drapeau et l'hymne national, mais on se dit, en gros, que comme finalement aujourd'hui Israël est au fait de sa puissance économique, technologique, militaire, stratégique, eh bien finalement, et comme d'un autre côté les Palestiniens sont au paroxysme de leur faiblesse politique, ils sont divisés, etc., eh bien finalement, pourquoi Israël n'absorberait pas les Palestiniens, alors progressivement, en leur donnant des droits civils et religieux, mais peut-être pas les droits politiques, en tout cas pas tout de suite, mais en gros l'idée étant d'une hégémonie, je dirais le succès israélien, la puissance israélienne, qui permettrait finalement d'absorber des Palestiniens, qui ne demanderaient pas mieux finalement qu'à vivre tranquille, de prospère, alors pas dans le cadre d'un État palestinien, mais dans le cadre d'un État d'Israël, qui serait ce qu'il est, et en gros ce serait, si je puis dire, comme si on voulait étendre aux Arabes de Cisjordanie, pas de Gaza, Gaza n'est pas inclus dans ce projet-là, si on étendait aux Arabes de Cisjordanie le modèle qui existe pour les Arabes israéliens ou en tout cas pour les Arabes les Palestiniens de Jérusalem-Est. Alors là aussi, je dirais le problème c'est qu'il y a bien un moment où la question du droit de vote sera posée. Il est clair que les équilibres démographiques, même si Israël n'additionne pas la bande de Gaza dans son giron, fait quand même qu'on ne sera plus dans une fourchette de 80%, 20%, 80% de juifs, 20% de palestiniens, mais 60-40, 55-45, et c'est clair que là, je doute fortement, je m'inquiète même de cette illusion qu'on est en train, ça et là, quelques voix dans la droite
Denis
israélienne.
Charbit, je vais vous interrompre un peu, parce que là, notre émission se termine. Un mot pour terminer, en deux secondes, là. Allô ?
Oui, je vous écoute.
Un mot pour terminer.
Ah, non, pour dire que de ce point de vue-là, le cadre des accords d'Oslo n'est pas terminé, c'est-à-dire que même si on voit bien que la solution tarde à venir, aucune solution concrète, pratique et réelle ne constitue aujourd'hui une véritable alternative aux accords d'Oslo.
D'accord, on repart avec les accords d'Oslo. Je vous remercie, Denis Charbit, d'avoir répondu à nos questions. On va se revoir bientôt, j'espère. Et puis, je souhaite à tous nos auditeurs un bon Shabbat et on se retrouve pour un autre rendez-vous dans 15 jours. C'était Paul Ouzi Meyerson à l'antenne avec Chronique pour la paix. À bientôt.